À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Rada Atem Ganzer, gynécologue obstétricienne, responsable de la maison des femmes de Saint-Denis.
Deuxième épisode, une gynécologue à l'hôpital. Bonsoir Rada Atem.
Bonsoir Caroline.
Hier, vous nous avez parlé de votre enfance au Liban, jusqu'à l'exil, en 1977. Ce soir, j'aimerais que vous nous parliez du choix, même si c'est presque un hasard, vous allez nous le raconter, de la gynécologie et de votre expérience de praticienne hospitalière. Donc si on reprend là où on s'est arrêté hier, vous êtes arrivée en France en 1977 pour faire des études de médecine que vous avez faites à Paris, mais vous ne vouliez pas être gynécologue à ce moment-là, je crois que vous vouliez être pédopsychiatre.
Absolument.
Vous savez pourquoi ? Vous savez d'où ça venait ?
Oui, en réfléchissant, je me dis que... Je vous ai parlé hier, par exemple, de cette enfance un peu contrariée, de cette adolescence frustrée. Et peut-être que je voulais... Oui, je voulais un peu réparer ça auprès d'enfants qui auraient pu vivre des choses similaires. Je pense que c'est ça qui guidait mon choix. Puis j'ai toujours beaucoup aimé les enfants, la compagnie des enfants, m'occuper d'enfants. C'était pour moi tout à fait naturel comme choix.
Finalement, vous êtes remontée aux sources, puisqu'à l'occasion d'un stage, vous êtes tombée, je ne sais pas si on le dit comme ça, mais sur la gynécologie obstétricienne. Ça a été une révélation ?
Oui, complètement. Complètement, je n'avais pas du tout pensé à faire gynéco, c'était pédiatre ou pédopsychiatre. Et ce stage a été une illumination. Parce que, on dit toujours la magie de la naissance, etc. Mais c'est vrai, quand vous êtes un jeune médecin et que vous apercevez qu'en fait, dans cette naissance qui est supposée être quelque chose d'extrêmement physiologique et d'extrêmement joyeux, il y a des moments d'extrême urgence, des moments de douleur, et des moments où vous faites la différence. En fait, je crois que pour un médecin, se dire que le fait qu'il soit là peut changer la vie des gens, c'est très narcissisant, mais c'est très encourageant aussi. Et donc, j'ai découvert cette spécialité où tout allait bien jusqu'à ce que tout aille mal. Et que quand tout va mal, le médecin est une sorte de magicien. Parce que la spécificité de ce métier, c'est un peu comme les urgentistes, c'est qu'on a 32 secondes pour prendre une décision et faire quelque chose.
Et c'est ça qui vous a plu ?
J'ai beaucoup aimé ce côté... ça va très mal, mais si tu fais vraiment ce qu'il faut, ça va aller très bien.
En fait, vous vouliez être utile.
Ah ben évidemment, je voulais être utile. Et puis, je trouvais que là, le fait de, par exemple, un savoir-faire pouvait vraiment changer la vie des gens. Et donc, savoir prendre la bonne décision, on n'a pas trop le temps de réfléchir quand on doit, par exemple, faire une césarienne en extrême urgence, ou bien décider, non, là, je vais faire un forceps parce que ça va marcher, je vais prendre ce risque parce que je suis sûre de moi. Et à chaque fois, c'est un petit pari, quand même. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup carburé à l'adrénaline de la salle de naissance. Être, notamment la nuit, un peu le seul maître à bord du navire et savoir que toutes ces femmes-là, elles vont peut-être avoir besoin de moi et qu'il va falloir que je donne le meilleur de moi-même une fois, deux fois, dix fois dans la nuit. C'est très réjouissant, je trouve. J'ai adoré ces gardes de nuit en salle de naissance.
Est-ce que dans vos stages, vous voyez des gynécologues femmes, ou est-ce que c'était exclusivement des hommes, parce que on est dans le tout début des années 80 et qu'aujourd'hui encore il y a beaucoup de gynécologues obstétriciens qui sont des hommes, les médecins sont souvent des hommes, ce sont des sages-femmes et des hommes médecins. C'était comment au début des années 80?
Alors au début des années 80, la médecine commençait quand même à se féminiser. Et on dit toujours, quand un métier se féminise, il se précarise. Il y avait toujours des castes, c'est-à-dire que les mandarins étaient des hommes, les professeurs étaient des hommes, les patrons étaient des hommes, bien sûr. Mais dans la jeune génération, dans mon amphi, il y avait déjà au moins 40% de filles. Je crois qu'aujourd'hui, elles sont 80%. Donc, c'était pas très exotique d'être une fille. Par contre, d'accéder à des postes de professeur ou d'agrégé, oui, ça, c'était même pas en rêve à cette époque. Et donc, le monde hiérarchique était très masculin. Après, il y a quelque chose qui est amusant, c'est que quand on était une fille dans ce milieu-là, il fallait en faire, comme toujours, des tonnes pour être acceptée. Et notamment dans ce monde de sages-femmes, par exemple, quelque chose qui m'avait frappée, c'est que nous, les filles, si on voulait que les sages-femmes nous apprennent notre métier, parce qu'au début, on ne sait rien, elles en savent bien plus que nous, il fallait qu'on soit super sympa, très à l'écoute, très disponible, on faisait des gâteaux, tout ça. Il suffisait qu'il y ait un garçon qui arrive et qui avait exactement le même poste que nous, externe, interne, et alors là, c'était tout lui était ouvert, tout était facile, il était le coq dans la basse-cour, c'était insupportable.
Qu'est-ce qu'on apprenait en obstétrique au tout début des années 80, Radha Hatem ? Qu'est-ce qu'on faisait ?
On faisait... L'obstétrique, c'est une spécialité qui a beaucoup progressé en termes de compréhension, en termes de prise en charge. Tout ce qui est gestuel n'a pas tellement changé. C'est-à-dire que on fait nos forceps comme devait les faire Monsieur Suzor, qui a inventé un forceps il y a bien longtemps. La césarienne a connu des avancées, comme on incise, le changement de fil, des choses comme ça. Mais globalement, faire naître un enfant, ça reste, quelque chose de presque artistique, avec...
Artistique, vous diriez?
Ah, c'est un art. Mettre des enfants au monde, c'est un art, oui. On dit l'art des accouchements. On dit aussi l'art d'accommoder les bébés, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, oui, je pense qu'on a cette dimension-là, un petit peu... quelque chose qui ne se met pas en équation, de savoir-faire, de doigté, de perception. Et ça s'apprend. Ça s'apprend au fil de l'eau, ça s'apprend par le compagnonnage, avec les anciens, avec les sages-femmes. Et ça s'apprend en faisant beaucoup, en fait.
Vous parlez des forceps et vous parlez de la césarienne. Il y a quand même quelque chose de relativement nouveau au début des années 80, c'est la péridurale. En 1981, il n'y avait que 4% des naissances qui se faisaient sous péridurale. Juste pour que les auditeurs et les auditrices se fassent une idée, en 95, c'était 48% et en 2012, 76%. Donc, on se replace en 81 ou au tout début des années 80, quand vous commencez votre métier. Bon, l'accouchement est encore vraiment douloureux.
Eh bien, moi, j'ai une expérience radicalement différente. Et c'est parce que j'ai eu la chance, pour mon premier stage d'internat, je suis allée à la Pitié. Et la Pitié, justement, il y avait un médecin, une anesthésiste, Jeanne Sébachère, qui avait développé la péridurale dans cette maternité-là. Et on était complètement en dehors des statistiques, parce qu'il y avait peut-être 90% de femmes qui accouchaient sous péridurale. Et je pense que ça avait fondamentalement changé la nature de l'atmosphère en salle de naissance. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus calme, que les femmes ne souffraient pas. Moi, je savais pas qu'il y avait en France 4%. Moi, ma norme, c'était 90% à la salpêtrière. Et c'est là que j'ai appris mon métier, en fait. Donc, j'étais un petit peu mal formée sur ce plan-là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je suis arrivée plusieurs années après au Bleuet, qui est le temple de l'accouchement sans douleur, de la préparation à la naissance, etc., la péridurale était encore un peu diabolisée, parce qu'on lui reprochait de supprimer des sensations, de ne pas faire vivre aux femmes exactement ce qu'elles devaient vivre. Et ça m'avait énormément interpellée, parce que j'avais été élevée avec beaucoup, beaucoup de péridurale. Et aujourd'hui, je pense qu'on revient à un certain équilibre, c'est-à-dire que les femmes peuvent choisir d'avoir la péridurale ou pas. Il y a juste un petit quelque chose qui, moi, me chagrine, c'est qu'on a mis comme une espèce de note de bonne conduite, c'est-à-dire que si tu peux accoucher sans péridurale, t'es vraiment une vraie femme. Et ça me fait de la peine qu'il y a des femmes qui n'ont pas envie d'avoir mal, et je pense que c'est tout aussi respectable que les autres, mais on a besoin de mettre comme ça, de prioriser. Donc si tu allaites très longtemps, si tu n'as pas de péridurale, t'es vraiment une superwoman. C'est pas sympa pour les femmes.
Radha Hatem, vous vous souvenez de votre premier accouchement? Pas le vôtre en tant que femme qui a accouché d'enfant, mais bien sûr en tant que médecin, en tant que professionnelle.
Oui.
On revient à cette difficulté de dire accoucher, faire accoucher, aider à accoucher.
Oui, il faut qu'on invente quelque chose.
Oui.
Je me souviens de mon premier accouchement que j'ai regardé comme externe, donc externe, c'est bébé docteur. On a le droit de faire des gâteaux et d'obéir, mais pas grand chose d'autre. Donc on regarde beaucoup. Et oui, c'était extraordinaire. C'est très beau un accouchement. Les années passent et ça ne change rien. Cette petite chose toute fripée là qui avance millimètre par millimètre et boum, il y a une famille. Et ça m'avait impressionnée.
Et c'est ça, et boum, il y a une famille.
Mais oui, ça, on part de rien quand même. Et puis l'accouchement qui m'avait particulièrement marquée et qui m'avait vraiment donné envie de m'engager dans cette spécialité-là, c'est cet accouchement que j'ai déjà raconté, qui est complètement impromptu, avec un SAMU qui déboule en disant « on est aux urgences, il y a une femme, elle avait mal au ventre, et puis en fait je crois qu'elle est en train d'accoucher ». Et donc il ne l'avait pas emmenée en salle de naissance, il l'avait emmenée aux urgences, c'est pas un endroit terrible pour accoucher. Et donc nous voilà tous partis en courant. Et là, la dame met au monde son premier enfant, de manière très simple. Et puis, c'était bien avant l'échographie systématique. Et donc là, la sage-femme met la main sur le ventre et dit « Je crois qu'il y en a un deuxième ». Et la panique à bord, on n'était pas bien installés du tout. Et donc, j'étais avec un chef. Et lui, je le vois qui un peu se redresse et se dit « Bon, là, mon gars, faut que tu montres ce que tu sais faire ». Donc, il dit « Ok, j'y vais ». Et puis, il met sa main et dit « Merde, il est en siège ». Et puis je le vois farfouiller, transpirer, suer à grosses gouttes. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pour moi, siège, tête, c'est pareil. Et puis il n'y arrivait pas. Et là, je me souviens, on était avec une vieille sage-femme. Une qui a vraiment de la bouteille. Elle lui dit avec beaucoup, beaucoup de gentillesse, écoute, je vais essayer, tu veux bien? C'est déshonorant quand même qu'un médecin laisse sa place à une sage-femme. Il dit, oui, je voyais que ça l'arrangeait. Elle met la main, elle fait je ne sais pas quoi, de la magie. Et elle tire sur quelque chose et elle sort deux pieds, une paire de fesses, un bébé. Et là, moi, j'étais mais complètement émerveillée. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire.
Tout le monde allait bien.
Évidemment.
Sinon, vous ne raconteriez pas comme ça.
Non. J'aurais pas fait obstétrique si vous auriez été mort.
Obstétrique. Obstétrique bienveillante. C'est une expression qui a un sens, qui a été forgée par un professeur que vous avez connu. Pas à la Pitié cette fois, mais à l'hôpital Saint-Vincent de Paul où vous êtes allé, Rada Hatem. Et c'est une expression assez nouvelle dans les années 80, portée par le professeur Jacques Chavignier, qui vous a tout appris après Gilles Lefebvre à la Pitié.
C'est fou comme vous connaissez bien ma vie. Oui, le grand Jacques, comme je l'appelais, j'étais complètement amoureuse du grand Jacques, tout honneur, bien sûr. Oui, c'était un homme qui était... C'était un Auvergnat extrêmement austère, mais qui aimait les femmes, vraiment. Dans le sens, il les respectait. Il respectait la fonction maternelle, il respectait cet échange tellement précieux entre un médecin et sa patiente, et ses patientes, mais l'adoraient. Il avait... C'était extraordinaire, parce que dans ce monde assez compétitif, il était en dehors de tous les circuits. Alors lui, la compétition, on ne connaissait pas, je crois qu'il était arrivé là, mais par hasard. Et il avait un rapport assez singulier avec l'argent, je me souviens, parce qu'il m'expliquait qu'il faisait payer ses consultations privées pas cher du tout, parce que, comme ça, il payait moins d'impôts. Et je reconnaissais là l'Auvergnat très, très attentif, mais en fait, il était le moins cher de tous les accoucheurs de la planète. Et il avait une très, très grosse clientèle. Et cet homme nous a appris... à toute une génération, et nous en sommes encore extrêmement reconnaissantes, à accompagner la naissance avec beaucoup de bienveillance, à respecter les femmes et respecter les enfants.
Mais attendez, on ne respectait pas les femmes avant ?
Si, mais on avait tendance un petit peu. C'était l'époque où on commençait à avoir beaucoup de procédures, beaucoup de protocoles. Il fallait faire comme ci, pas comme ça. Et ça, c'était bien, ça, c'était mal. Et lui, il nous disait, je ne vous en voudrais jamais de faire comme vous pensez que c'est bien, mais je veux que tout le monde aille bien à la fin. Donc c'était pas du tout un homme de procédure, c'était un homme d'art, et le voir faire un accouchement, c'était à chaque fois un émerveillement. Et on a tous été un peu élevés comme ça, ça nous est resté, on est tout un groupe de petites nanas formées à ses côtés et tout aussi admiratives de lui.
Les petites nanas qui ont fondé le club des poufs.
Oui, le fameux club des poufs.
De l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris.
Absolument. Et qui est encore bien vivace 30 ans après. Oui, c'est chouette parce qu'on a toutes, on s'est retrouvés là-bas et on partage toute cette idée que il faut de la bienveillance, il faut, des procédures, mais à leur juste place. Et ce qui nous fait plaisir, c'est que l'obstétrique, après avoir été extrêmement médicalisée, il y a eu un mouvement très très fort, et tant mieux, parce qu'on a sauvé des vies. On a beaucoup appris, des prises en charge beaucoup plus performantes, etc. Mais petit à petit, on en oubliait justement le grand Jacques et le savoir-faire. Et aujourd'hui, ça revient. Ça revient, c'est-à-dire que c'est la médecine, mais à sa juste place. Ce qui n'est pas évident.
Et puis c'est un juste équilibre à tenir. Vous êtes resté 3 ans à Saint-Vincent-de-Paul, 3 ans décisifs, c'était un peu votre première maison, en tout cas dans la médecine. Et puis de l'obstétrique bienveillante du professeur Chavagnier, vous êtes passé à l'accouchement sans douleur de Fernand Lamaze, à la maternité des Bluets. Ça, c'était en 1991. Lamaze a forgé le concept.
Lamaze avait inventé son concept, mais après être allé en URSS voir des femmes accoucher en souriant, dans la Russie rayonnante et victorieuse. Et c'était en fait, tout ça s'appuyait sur le réflexe de Pavlov, qui est que quand vous êtes préparé, etc., que vous n'avez pas peur, eh bien, vous avez moins mal. Et donc, il était revenu avec cette théorie, il avait développé ses séances d'accouchement sans douleur, et c'était un visionnaire, hein, ça n'existait pas. Et il avait réussi à les faire rembourser par la Sécu. Alors qu'il avait dû se battre contre la faculté de médecine, le conseil de l'ordre, Vatican, parce qu'évidemment les femmes devaient accoucher dans la douleur, c'est écrit dans la Bible. Il a été très courageux, Fernand, et je crois qu'il l'a payé de sa vie parce qu'il est mort d'un infarctus massif après une séance houleuse de conseil d'administration des Bleuets. Et les sages-femmes des Bleuets, qui elles avaient été vraiment élevées dans c'est très important que les femmes aient cette préparation et qu'elles puissent accoucher sans avoir mal, mais sans avoir de calmant, étaient un peu désorientées. C'est parce que la péridurale était arrivée. C'est-à-dire, finalement, à quoi on sert s'il y a la péridurale ? Et que la péridurale avait rendu cette préparation à l'accouchement sans douleur, non pas caduque, mais un peu secondaire. Et c'était une période un peu compliquée parce qu'il fallait à la fois installer la péridurale quand même, les femmes la réclamaient malgré tout, et en même temps ne pas perdre tout ce que cette préparation à l'accouchement sans douleur apportait, qui était une meilleure connaissance. Vous savez, le pouvoir appartient à ceux qui savent. Quand on maintenait les femmes dans l'ignorance, eh bien le médecin était un peu tout puissant, elles ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, elles étaient sommées d'obéir. Leur donner ce pouvoir de comprendre et de décider, c'était quand même assez révolutionnaire, et ça, il fallait réussir à le maintenir tout en ouvrant la porte à la péridurale. Et c'était un moment compliqué pour les Bleuets, c'était une révolution culturelle quand même. C'était une époque, c'était la fin, mais Fernand Lamaze avait développé la notation des femmes. C'est-à-dire que j'ai retrouvé dans des vieux registres, cette femme, elle a hurlé, je lui ai mis 6 sur 10. Genre, ça a été une mauvaise élève, elle a pas bien travaillé son accouchement sans douleur. Donc, il y avait aussi ce jugement. Donc, on voulait être bienveillant. Et en même temps, on avait du mal à se débarrasser de ces jugements sur comment elle a accouché, est-ce qu'elle a été, elle a bien profité de ce que je lui ai appris. Je pense que ça a été une aventure collective qui nous a permis de ne pas laisser mourir les Bleuets. Les Bleuets étaient à un moment de leur vie très, très compliqué, financièrement, éthiquement, philosophiquement. Et je ne sais pas moi toute seule, hein, mais avec l'équipe, on a petit à petit réussi à faire cette synthèse entre l'humanisation, la bienveillance, la place centrale de la femme, et en même temps une médicalisation nécessaire, parce que si on n'allait pas vers ce minimum de médicalisation, on allait avoir un taux de mortalité et de problèmes materno-fœtaux qui était inacceptable. Donc c'était vraiment un tricotage très délicat. Mais aujourd'hui, les Bleuets sont sortis, je pense, de l'ornière, et ça a été un long chemin, mais je crois qu'ils vont beaucoup mieux là.
Vous y êtes resté 12 ans, vous avez été chef de service, Radha Hatem. Changement, je ne sais pas si c'est radical, mais en tous les cas, changement très net, puisqu'en 2003, vous avez rejoint un hôpital militaire, l'hôpital militaire Bégin de Saint-Mandé, où là, vous êtes resté 8 ans. Un peu choc des cultures quand même, là, non ?
Complètement. Complètement, et en même temps, c'est ça qui était excitant. En fait, ce qui, moi, me plaisait, c'était de découvrir une culture qui m'était, mais totalement étrangère, pour laquelle j'étais même presque un peu hostile, parce que militaire, c'est pas les gens que j'aimais le plus au monde, a priori. Mais j'étais très intéressée de découvrir ce monde-là, et je ne regrette rien, parce que c'est aussi un monde qui peut être très bienveillant, qui est très, très solidaire. Énormément de solidarité chez les médecins militaires, parce que, comme toujours, je crois que quand on est dans des conditions extrêmes et qu'on sait qu'on dépend les uns des autres, on apprend, en fait, à travailler ensemble. Et puis, c'est des gens qui ont tellement fait progresser la médecine. La chirurgie doit énormément à la chirurgie militaire. Les urgences, c'est les militaires qui ont appris à trier les malades sur le champ de bataille.
Certains diraient que c'est pas un progrès.
Eh ben, si, justement, c'est un progrès. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un terrain de guerre et que vous avez 100 blessés, vous pouvez pas rapatrier tout le monde. Donc, vous devez décider qui a des chances de s'en sortir et qui n'en a aucune. Et quelque part, c'est presque mieux de donner toutes ces chances à ceux qui vont survivre plutôt que d'embarquer ceux qui vont mourir dans une demi-heure parce qu'on veut être gentil avec tout le monde. Et je trouve que tout ce travail que les militaires ont fait pendant les grandes guerres a permis à la médecine de progresser énormément. Et puis, ils ont des techniques incroyables. Ils sont capables d'affréter un énorme avion en 2 heures avec 3 blocs opératoires et de parachuter tout le monde sur un terrain de catastrophe. Et ça, quand même, c'était extrêmement impressionnant.
Enfin, il y a quelque chose qui ne faisait pas et que vous vous êtes mis à faire, c'est des IVG, des interruptions volontaires de grossesse.
Oui, parce que les médecins militaires, en fait, déjà la gynécologie dans la médecine militaire, c'est le parent pauvre, parce que c'est pour les femmes, hein, on est bien d'accord, et que les militaires, à la base, c'est quand même des hommes. Donc je pense qu'il y a eu des maternités qui étaient pour les femmes de militaires. Et puis petit à petit, l'armée s'est féminisée, comme tout. Et moi, ce qui m'a choquée quand je suis arrivée, c'est qu'effectivement, il y avait des femmes militaires qui avaient besoin d'une IVG, et puis on leur disait « non mais désolé, on fait pas ça ici ». Et alors à quoi bon avoir un hôpital dédié aux militaires si on ne peut même pas leur donner ce soin, qui est un soin quand même assez basique et illégal. Et ça m'avait aussi un petit peu énervée. Et je trouvais ça complètement injuste. Et donc j'avais commencé à réfléchir à finalement qu'est-ce qui nous empêche d'en faire, puisque nous sommes convaincus que c'est bien. Et là, il a fallu quand même un peu convaincre le général directeur et puis tous les généraux après qu'on avait une obligation, parce que c'est pas parce qu'on était militaire, on était quand même un hôpital public et tous les hôpitaux publics avaient obligation, c'était la loi, de faire des IVG. Donc ça m'a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, c'est même plus un sujet.
C'est-à-dire qu'il continue de le faire.
Ah oui, puis alors sans aucun départ. État d'âme.
Donc vous êtes resté 8 ans, je disais, dans cet hôpital militaire, Bégin, de Saint-Mandé. Et puis en 2010, coup de fil, chef de service de la maternité de l'hôpital de La Fontaine, à Saint-Denis. Vous avez un peu hésité, puis vous y êtes allé.
J'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité parce que j'étais très bien avec mes amis militaires, j'ai fait plein de copains. C'était tout près de chez moi, j'avais une très belle qualité de vie. Et puis j'avais quitté les Bleuets, j'étais chef de service aux Bleuets, je voulais plus être chef de service. C'est quand même quelque chose qui vous pompe complètement émotionnellement. Et puis on parle de charge mentale quand vous êtes chef de service, vous êtes en permanence en train de vous demander est-ce que les équipes sont complètes, est-ce qu'il y a assez de monde cette nuit, est-ce que personne n'est mort, est-ce qu'il y a eu aucune connerie de fait, parce que vous êtes l'ultime responsable de tout ce qui se passe et c'est extrêmement pesant. Et donc je m'étais dit bon c'est bon là, je voudrais plus être chef de service jamais. Et là on me propose à nouveau une chefferie de service et moi je me dis non, tu as dit non. Soit cohérente. Et puis Saint-Denis, c'est au bout du monde. Et puis Saint-Denis, c'est pire que Beyrouth. Il y a de la violence, il y a des voitures qui brûlent, il y a des jeunes qui meurent. Bon, j'étais pas du tout tentée. Et puis mon collègue a été très convaincant, très, très patient. Il m'a continué à me draguer gentiment pendant un an. Il m'a dit, écoute, viens voir. Je suis allée passer 2 jours là-bas. Et je suis tombée sous le charme de la Seine-Saint-Denis. C'est terrible, hein. C'est un département qui vous aspire. il se passe tellement de choses, il y a tellement de problématiques à régler, et puis il y a une énergie.
Pas que des voitures qui brûlent, que des jeunes qui meurent, c'est ça que vous avez découvert, en fait.
C'est ça. Non, mais il y a une énergie de malade. C'est un département très jeune. C'est un département où il y a des centaines de nationalités. Et c'est un département où on invente plein de choses. Et voilà, j'ai dit OK. Et puis j'y suis encore.
Vous voilà donc à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, après l'obstétrique bienveillante de la maternité Saint-Vincent-de-Paul, l'esprit militant des Bluets et l'organisation carrée de l'armée. Quel adjectif viendrait tout de suite spontanément à votre esprit pour qualifier l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis ?
Mais en fait, à De La Fontaine, j'ai pu mettre en œuvre un peu tout ce que j'avais appris dans les autres maternités. Parce que c'était une maternité qui devait déménager, les locaux étaient plus du tout adaptés, et il y avait des nouveaux locaux en construction. Et puis c'était une maternité un peu poussiéreuse, un peu vieillissante, qui n'avait pas, je pense à ce moment-là, trouvé sa raison vraiment d'exister. C'est-à-dire qu'on accueillait tout le monde, bien sûr, c'est normal, mais les gens venaient là parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et moi, je trouvais ça dommage de se dire que les gens venaient parce qu'ils n'avaient pas le choix. J'avais envie que les gens viennent parce que c'était bien. Et mon engagement a été, je voudrais que dans quelques années, on nous choisisse pas par hasard. On nous choisisse parce qu'on est, bon, on est bienveillant, on a de bons résultats, on est sécure. Et donc, ça a été une grosse période de restructuration, de mise d'actualisation des protocoles, de remonter une équipe, de faire venir des jeunes médecins, de leur donner envie. Parce que c'était un hôpital qui donnait pas trop envie, en tout cas la maternité à ce moment-là. Et j'ai eu de la chance parce que ça a plutôt bien fonctionné. J'ai réussi à recruter une équipe de jeunes médecins très volontaires, très motivés. On a fait une belle équipe. Et on est passé assez vite de 3000 accouchements à 4700. Alors l'objectif n'était pas d'être gigantesque, mais il se fait que voilà, le succès était au rendez-vous.
C'est aussi là, à De La Fontaine, que vous avez été frappé par le niveau social des patients, et en particulier des patientes, et que vous avez découvert l'ampleur du nombre de femmes excisées, 14 à 16% des parturientes. Cette violence, vous la découvriez, vous l'aviez déjà côtoyée dans votre parcours professionnel, Rada Hatem, mais disons qu'à cet endroit-là, elle vous est peut-être un peu plus tombée dessus qu'auparavant. C'est de cela que nous parlerons demain. Si vous le voulez bien, à demain et bonne soirée.
Bonne soirée, Caroline.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Virginie Lorda, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.